Phil PM. La voix est libre.
Luc Lavoie, bonjour.
Salut, Bernard.
Tu veux nous... Alors, ta bonne nouvelle du jour, si je comprends bien, le journalisme d'enquête?
Ben oui, effectivement, parce que je regarde... Vous avez une excellente entrevue tout à l'heure avec Michel Nadeau. Le cas de Otera, une filiale de la Caisse de dépôt et placement. Bon, Michael Sabia est passé à l'offensive, puis fait le grand ménage, le grand coup de balai, puis bon, ça finit là. Mais ça, c'est... Cette nouvelle-là, on ne l'aurait jamais connue. N'eût été d'une telle pratique qu'on appelle le journalisme d'enquête. Gilbert Rozon, on n'aurait jamais su ses comportements pour le moins douteux s'il n'y avait pas eu du journalisme d'enquête
notamment,
qui était ici à 98.
Oui, de Monique et d'Émilie, oui.
La police de Montréal, qui était devenue une espèce de jeu de clan qui se faisait la guerre à l'interne, finalement, le gouvernement de M. Couillard, avec Coiteux, qui était ministre de la Sécurité publique, ont décidé de faire un grand ménage. Pourquoi? Parce que le journalisme d'enquête nous a révélé tout ce qu'il y avait dans ça.
La commission Charbonneau.
La commission Charbonneau a fait suite. C'était la grande époque de l'émission de Radio-Canada Enquête.
Voilà.
Alain Gravel, le journaliste, Marie-Maude Denis et d'autres.
Exact.
Ce sont eux qui ont commencé à déterrer tout ce qui tournait autour de tout ça. Puis le bateau touch de Tony Accourceau. Puis ceux qui se la coulaient douce avec lui. Puis tout ça. C'était du journalisme d'enquête, ça. Alors, moi, je trouve qu'il faut leur rendre hommage à ces gens-là. Toi, tu as pratiqué le journalisme d'enquête, Bernard. Et c'est une technique un peu particulière. C'est un enquêteur, un journaliste qui n'a pas de pouvoir d'enquête. Je dis, tu n'as aucun pouvoir. En fait, tu es limité comme un citoyen, comme n'importe quel citoyen. Alors, tu ne peux pas utiliser des méthodes comme aller voler des documents, c'est l'équivalent d'une saisie.
Non.
Il faut que tu y ailles uniquement par...
persuasion.
Par persuasion, puis une certaine psychologie, je pense.
Oui, oui. Il faut que tu leur montres leur intérêt à te parler, soit te parler à visage découvert. Des fois, c'est rarissime, ils vont te parler à visage... à visage couvert d'abord, puis des fois à visage découvert. Tu sais, par exemple, moi, j'avais sorti l'histoire sur le financement illégal du parti du maire de Montréal, le maire Bourque.
Oui.
J'avais convaincu son ancien chauffeur, Maurice Brault, de finalement me parler à visage découvert. Il m'avait donné une entrevue à visage
Pourquoi?
Découvert.
Pourquoi? Parce que sa conscience était dérangée par tout ce qu'il avait vu?
Ouais, ou... il était. Puis je pense qu'il y avait. Oui, il y avait ça. Puis je pense qu'il voulait aussi. Il était resté très amer. Il avait l'impression d'avoir été manipulé. Et puis je pense qu'il voulait. Effectivement, c'est un homme qui était malade à ce moment-là. Puis je pense qu'il voulait comme laver sa conscience d'une certaine manière, effectivement. Alors, l'affaire avec le journalisme d'enquête. Puis je suis content que tu m'en parles, parce que regarde-moi bien aller. L'affaire avec le journalisme d'enquête, c'est que tu as du temps. Tu n'es pas obligé de produire à tous les jours.
Ouais,
ça, c'est un luxe. De plus en plus dans le journalisme, là, c'est un luxe. Parce que, qu'est-ce que tu veux, les entreprises de presse ont des difficultés financières, fait que, tu sais, ils te demandent de sortir ton papier à tous les jours ou ton reportage à tous les jours.
Mais est-ce que tu me permets à ce point-ci d'intervenir pour dire la chose suivante? L'expérience québécoise, là, du pour et du contre, mais l'expérience québécoise a démontré qu'une des façons de faire en sorte qu'un journal demeure
pertinent
dans la société, c'est d'arrêter de rapporter les nouvelles de la veille puis d'arriver avec du matériel.
Mais ça coûte cher, Luc. Ça coûte cher, les modules d'enquête.
Ça coûte cher, mais ça produit énormément, puis ça se fait de plus en plus systématiquement. C'est devenu de plus en plus professionnalisé. Toi, tu l'as fait à ton époque, mais je pense qu'à l'époque où tu le faisais, c'était pas encore... C'est Enquête, vraiment, de Radio-Canada qui a réouvert ce...
Mais il y avait un module d'enquête à Radio-Canada, dont je faisais partie, qui était dirigé à ce moment-là par Pierre Tourangeau.
Oui.
On était quelques-uns. Michel Morin était là, notamment. Oui. Il enquêtait sur Hydro, puis tout le reste. Puis on faisait... Mais on faisait pas juste ça! Moi, tu vois...
De temps en temps, vous aviez une affectation sur d'autres choses.
Nous autres, c'était économie et enquête. Fait qu'une fois de temps en temps, il fallait sortir des topos, tu sais, parce que le téléjournal, fallait le faire, tout ça. Bon, puis après ça, une fois que tu avais sorti ton topo, mettons, tu avais un deux jours, il te laissait tranquille, puis là, tu pouvais fouiller tes affaires. Fait que moi, j'ai fouillé, mettons, les cols bleus, bon, puis après ça, le financement, puis les...
Mais ce qu'ils ont créé chez Québécois, c'est une unité qui est complètement isolée du reste, c'est même pas dans les mêmes locaux. Celui que j'admire beaucoup et pour qui j'ai de l'amitié, c'est Félix Séguin.
Oui.
Lui, il ne fait que ça. OK? Puis avec les années, il a développé des contacts dans à peu près tous les milieux susceptibles de l'alimenter.
D'accord.
Et ça prend une finesse incroyable parce que Comment tu fais pour garder tes contacts quand eux autres, à un moment donné, ils voient ça apparaître dans les journaux?
Là où je voulais t'amener, Luc, puis je trouve ça intéressant qu'on ait cette discussion-là, c'est que pour qu'il y ait des modules d'enquête, il faut qu'il y ait des médias.
Oui.
Puis tu n'auras jamais un module d'enquête chez Facebook. Je pense pas, en tout cas, pas à court terme.
Je suis d'accord avec
pas
toi.
Pas à court terme.
Mais comment t'expliques que la presse...
C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser crever, ces médias-là,
oui, mais
tu
la
comprends?
Presse n'en fait pas d'enquête.
Ben voyons.
Ben va sur moi-en.
Mais voyons, Luc, es-tu une niaise?
Non, mais c'est présentement. Ils en ont déjà fait. Mais présentement,
Daniel Renault, il passe son temps à sortir des enquêtes. Il passe son temps à faire des entrevues avec lui sur le crime organisé.
J'avoue que sur le crime organisé, ils sont forts.
Puis dans le monde municipal, ils ont plusieurs bons reporters, des jeunes reporters qui sortent Kathleen Lévesque. Elle est à la presse, elle sort. Bon. Puis après ça, tu as Katia Gagnon.
Oui.
Beaucoup autour de la protection de la jeunesse. Elle a sorti des histoires incroyables. Tu as plusieurs journaux.
Bon, alors je retire mes paroles concernant la presse, mais ce que je veux dire, c'est que ce type de journalisme-là est plus nécessaire que jamais.
Ah, ben là, on est d'accord.
Plus nécessaire que jamais. Et c'est une façon, d'après moi, d'envisager le métier d'une façon très différente. Ce qui est présentement le problème des médias traditionnels, c'est qu'ils ne veulent pas jeter à la poubelle un modèle économique qui ne fonctionne plus. Créons des unités d'enquête, enlevons tout ce qu'il y a autour de quincaillerie inutile, de prise de décision à 8 niveaux, de mettre ton argent là avec des professionnels, encadre-les comme il faut pour s'assurer que sur le plan légal, tout se passe bien, puis tu fais œuvre utile pour la société qui voudra pas se passer de toi. Rapporter la nouvelle d'hier... Ça n'intéresse plus personne parce qu'au moment où tu lui rapportes, il te fait 10 heures qu'ils sont au courant.
Parce que tu l'as lu sur les réseaux sociaux.
Ben, c'est parce que les gens ont des appareils intelligents.
Mais moi, je vais te
dire.
Ils
sont programmés, puis ils reçoivent une alerte, puis bang, ils savent la nouvelle, puis si ça les intéresse, ils pèsent dessus. Tu sais, alors, il faut que le journalisme devienne autre chose qu'une façon froide de rapporter ou d'une prétention objective ce qui s'est arrivé la veille.
Tu vois, c'est fini, ça. C'est intéressant. J'ai le goût quasiment de demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. 790-9850-98985 par texto, Drainville, à commercial 985FM.ca. C'est un peu pointu, mais je suis curieux de vous entendre parce que dans le fond, là, puis dis-moi si je me trompe, mais ce que tu dis, c'est que les médias traditionnels doivent se réinventer. Ça fait longtemps que tu le dis. Mais quand tu dis ils doivent se réinventer, ce que tu dis, c'est qu'en se réinventant, s'il y a une chose qu'ils doivent conserver et même renforcer.
Et renforcer, mettre
c'est
l'accent
les unités d'enquête. C'est le journalisme d'enquête.
Oui. Parce qu'ils sont dépassés. Tu sais, on avait même inventé un mot à l'époque quand j'ai travaillé chez Québécois. On appelait ça du commodity news. La nouvelle, tu sais, un dépôt d'un projet de loi.
Mais oui, les communiqués.
Mais tout ça, là, c'est gratos, excuse l'expression à la québécoise, c'est gratuit.
Tu peux le trouver ailleurs, partout. Bon.
Alors, donc, pourquoi perdre son temps à essayer de produire quelque chose que les gens veulent plus parce qu'ils s'informent plus de la même façon, OK? Alors, je vais produire quelque chose qui va vous intéresser parce que je fais œuvre utile. Je viens de vous faire découvrir qu'il y avait à la caisse de dépôt et placement.
Je produis du matériel exclusif.
Du matériel exclusif. J'attire mon marché. Il y a quand même une réalité économique aux médias, là. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Il faut que ça fasse ses frais ou ben non, ça va fermer.
Mais c'est ça.
Alors, c'est parce que mets ton argent là où t'as, dans le contenu. Et d'ailleurs, c'est en passant exactement ce que Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde, a acheté le Washington Post. Qu'est-ce qu'il a fait, le Washington Post, qui est rendu un journal bien supérieur à ce qu'il était il y a 10 ans? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé tout un paquet de quincailleries, puis de machines, puis d'affaires. Il a concentré ça sur le contenu. Il a créé, évidemment, ce sont des moyens américains incomparables aux nôtres, mais il a créé une unité de 90 reporters à temps complet à faire de l'enquête.
Alors, je vais vous la poser, la question, là. Est-ce que, mettons, un journal qui se concentre sur l'enquête et qui vous donne beaucoup d'enquêtes exclusives, est-ce que vous seriez prêt à payer pour ça?
Oui.
C'est une question raisonnable,
oui, c'est une question
ça? Raisonnable. Bon, 790-9850, 98985, Drainville, à commercial, 985FM.ca. L'enquête, OK, l'enquête comme prétexte, ou comme pas prétexte, comme raison de payer pour avoir de l'information. Même à la rigueur, je vous dirais, mettons que vous êtes quelqu'un qui a déjà acheté son journal, qui ne l'achète plus parce que vous vous informez maintenant sur les réseaux sociaux, vous ne sentez plus le besoin de vous abonner à quoi que ce soit. Est-ce que vous seriez, dans certaines conditions, prêt à vous réabonner à un journal qui vous donnerait des enquêtes exclusives?
C'est là qu'on arrive au type de modèle développé par le Globe and Mail, ici au Canada, certainement, le New York Times, le Washington Post, c'est-à-dire que c'est un modèle où tu payes. Si t'es pas abonné au Globe and Mail, là, t'as en gros toutes les manchettes commodités. Mais dès lors que tu veux voir l'analyse spéciale qu'ils ont sur telle chose ou l'enquête qu'ils ont menée sur telle autre, il faut que tu payes. C'est ça qu'il faut créer.
Oui, c'est ça. Mais pour créer ça...
Ça prend du contenu.
Voilà. Il faut que tu penses que ça vaut la peine.
Ah ben
une
oui.
Une fois de temps en temps.
Ben moi, je pense que la survie des médias traditionnels passe par là. S'ils ne sont pas capables de faire ça, ils vont mourir.
Alors, on a Junior qui nous appelle au 790-9850. Bonjour, Junior.
Bonjour, M. Dréville. Comment allez-vous?
Très bien. On vous écoute, mon cher.
Bonjour, M. Larrois.
Bonjour.
Je trouve que c'est une excellente idée que le journaliste se réinvente, OK? Par contre, il ne faut pas sortir du cadre de l'objectivité, OK? Il ne faut pas que le journaliste nous donne une opinion, OK, déjà préfaite. Il faut par contre que ça reste objectif et nous, on est capable de faire notre opinion là-dessus. Il faut qu'on fasse la différence entre analyser et informer.
Oui, j'allais dire, Junior, que... La notion d'objectivité qui est souvent soulevée dans des gens sur ma page Facebook qui vont me dire à moi, par exemple, que je suis pas objectif, je leur réponds, moi, je suis pas là pour être objectif, moi. Je suis là pour exprimer une opinion. Mm-hmm. Alors, l'objectivité dont vous parlez, qu'on la retrouve dans le travail des journalistes d'enquête, je vous suis. Mais les journaux, c'est aussi des chroniqueurs, des columnistes, des Joseph Facal, des Richard Martineau, des Lisiane Gagnon, Alors ça, c'est pas de l'objectivité, c'est le contraire de l'objectivité.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut faire la différence entre un journaliste d'information, OK, entre un chroniqueur, OK, et un analyste.
D'accord.
C'est pas la même chose du tout. Il faut faire les différences entre ces différentes choses-là. Puis vous êtes M. Lavoie, je peux vous considérer comme un analyste politique.
Oui,
vous voyez, vous donnez votre opinion. Nous, on est capable de regarder avec les différentes informations qu'on a et faire notre opinion là-dessus. Par contre, regarder TVA ou RDI, puis m'attendre à avoir une opinion déjà préfaite, là, il y a un souci.
Merci, d'ailleurs, j'entends
souvent les gens qui aiment nos interventions communes, Bernard. Une des raisons pour lesquelles ils aiment nos informations communes, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont les deux points de vue.
Oui,
hein?
c'est vrai. Moi,
mon opinion est claire, la tienne est claire sur un certain nombre de sujets. Puis de temps en temps, on se coltaille un peu, puis tout ça. Mais fondamentalement, ça mène vers une forme d'objectivité. C'est quand on fait dans le wishy-washy, j'en entends de ça, là, et qu'on a une part, mais oui, d'autre part, mais comment? Dis-moi ce que tu penses, là. Et là-dessus, notre équipe marche bien pour ça, je pense.
Oui, absolument. Quelqu'un nous écrit et dit en démocratie, les journalistes sont les chiens de garde. Le journalisme d'enquête est, à mon sens, la définition même du mot journalisme. Ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'on s'attaque aux sources, notamment dans l'affaire de Marie-Maude de Denis. Quelqu'un d'autre me dit oui, au journalisme d'enquête, on n'est plus intéressé. Genre, ça nous tente plus d'entendre parler des incendies du coin de la rue. Quelqu'un d'autre dit, moi, c'est les donneurs d'opinions biaisées dont je ne suis plus capable. Il reprend un peu les propos de Junior.
Mais biaisé, dans ce cas-là, ça veut dire que la personne a entendu des opinions qui ne correspondent pas aux siennes.
C'est ça, j'allais
exactement
dire.
Exactement ce que j'allais dire, évidemment.
Voilà, très
comme
bien.
Par exemple, mes amis indépendantistes, séparatistes et autres vont dire que je suis biaisé, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, peut-être biaisé, mais ils le savent.
Oui. Oui, puis il y en a qui t'écoutent pour taillir. C'est vrai, ça. Non, mais c'est vrai. Puis c'est vrai pour moi aussi.
Je voudrais pas te savoir, juste... mais j'en ai entendu dire aussi la même chose. Tu sais, moi, le grain de Réville, j'étais pas capable, mais là, il est bon. Hein? Il est bon.
Ah, ben là. Je suis content d'entendre ça. Thierry, bonjour. Bonjour, Thierry.
Oui, bonjour.
Salut.
Bonjour, ça va bien?
Oui, très bien, très bien. On vous écoute.
Moi, j'ai vu un changement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans Le Devoir. J'ai décidé de m'abonner suite à une série de reportages d'enquête qui m'intéressaient sur des sujets, par exemple, comme l'environnement. On dirait qu'on veut faire des reportages un petit peu plus poussés.
Oui, avec Shields, notamment, Alexandre Shields. Oui. Mm-hmm.
Exactement. Ça m'a interpellé. Je trouvais que c'était intéressant. Je me questionne juste à savoir si les gens ont encore la volonté d'aller en profondeur dans un texte. J'ai l'impression, moi-même, de lire beaucoup de manchettes, puis je trouve ça plus épuisant lire un texte complet maintenant. Je ne sais pas si notre cerveau change.
Mais regardez, l'autre fois, je faisais...
Les médias sociaux contribuent à cette paresse intellectuelle.
Je pense que vous avez raison.
Laissez-moi vous raconter une rapide anecdote. Quand j'ai écrit mon livre, j'allais chercher des références à des choses qui se sont passées en 79, 80. Donc, on allait sur des microfilms là, qui existent à la bibliothèque, tout ça. Mm-hmm. Puis tu retrouvais des articles sur, effectivement, ça me donnait l'heure où telle chose était arrivée, tout ça. Tu te rendais compte qu'un article du Journal de la Presse ou du Devoir ou du Globe and Mail en 1980, ça avait à peu près trois fois la longueur de ce qu'on lit aujourd'hui. Trois fois, là, sans exagérer.
Mais Thierry, ce que vous décrivez, ça m'arrive aussi parfois, là. Mm-hmm. C'est comme si ma capacité de...
D'absorption.
Oui, c'est comme... Et puis je pense que c'est notamment le résultat de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, qui est en général des textes plus courts. Twitter, moi je suis un grand utilisateur de Twitter. Je veux dire, Twitter, c'est de la synthèse, là.
Et je sais pas, il y a une tendance aussi à ce que tout le monde ait son opinion et tout le monde dise raison. On voit ça, une polarisation sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Je sais pas si les gens sont prêts à se pencher et dire que, à contredire leur propre vérité. C'est ça qui m'inquiète. Ouais,
merci pour l'appel.
C'est un autre débat. Ça.
Mais on observe qu'effectivement, notamment sur Facebook, les gens lisent davantage ceux qui pensent comme eux. Hein,
effectivement.
Marie, en terminant, bonjour Marie.
Oui, bonjour. Moi, c'est surtout les résultats de ces enquêtes-là qui m'intéressent. C'est-à-dire que, par exemple, la commission Charbonneau, il y a eu une personne qui est allée en prison, s'évaillée en cours, puis tous les autres s'en sont sortis. Avec Roson Salvay, il y a seulement une personne qui a été accusée. Puis après ça, les journalistes aussi, quand ils se mettent amis, par exemple, avec des policiers ou ils se mettent amis avec des sources, après ça, ils ont des comptes à rendre à ces gens-là.
Là-dessus, je pense pas qu'ils ont de compte à rendre à ces gens-là, non.
Explique-toi.
Ben, je veux dire, une fois qu'un journaliste fait son travail puis qu'il a parlé à une personne, la personne qui parle à un journaliste, d'abord, le journaliste s'est identifié, a dit « Je suis journaliste, je fais présentement un reportage. » En fait, tu peux pas faire du journalisme d'enquête par de la fausse représentation.
Non, impossible.
Alors, à un moment donné, ils n'ont pas de compte à rendre. La personne qui a parlé, elle a parlé, qu'est-ce que tu veux? Puis les journalistes d'enquête sont parmi ceux qui sont les plus prudents. Ils enregistrent à peu près toutes les conversations qu'ils ont en rapport avec leur enquête parce qu'ils veulent pas se faire contredire. Non, je pense pas qu'ils ont de compte
à
rendre.
Mais Marie, est-ce que vous êtes... Peut-être qu'il faut le prendre différemment. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'une fois qu'un journaliste a sorti une nouvelle qui bouscule, mettons, une institution, qui met au jour un scandale, c'est la responsabilité du journaliste de s'assurer que les autorités répondent? Donc, il faut revenir avec un suivi. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire?
Non, moi, ce que je veux dire, c'est par exemple, quand quelqu'un a des sources d'un policier, d'un ami policier ou des amis policiers ou la mère d'un policier ou quelqu'un comme ça,
oui.
Puis qu'après ça, il va avoir des comptes à rendre. Parce que les policiers ont aussi des intérêts à donner des renseignements à des journalistes. Bien, c'est ça, mais ça, c'est un jeu dangereux. Parce que si vous regardez enquête, là, au début, là, il y avait des interrogatoires de police de la SQ. Fait que ça veut dire que c'est la SQ qui leur a donné ces vidéos d'interrogatoire. Oui, fait que ça veut dire que la SQ collaborait avec enquête.
C'est
alors
clair.
Après ça, enquête doit donner un bonbon de l'autre côté, là.
Oui, mais regardez, je veux juste vous soumettre le commentaire suivant. Vous prenez le cas que vous dites, là, vous dites ils doivent quelque chose, là. Moi, je pense que c'est... Je pense pas que c'est vrai, en tout cas. Je voulais aller plus loin, mais... Mais je veux dire, un journaliste, il faut qu'il serve de son jugement. Ouais. Il sait que la police est... Regardez le cas de l'UPAC. L'UPAC, ce qu'on en sait maintenant, a beaucoup manipulé les médias en les alimentant, puis à un moment donné, c'est venu
ça
leur
ça s'est retourné
mort.
Contre eux.
Ben ouais, le boomerang les a frappés en plein front.
Mais ce qu'il faut dire, en terminant, Marie, la première question qu'on doit se poser, est-ce que l'information est d'intérêt public? Deuxième question qu'on doit se poser, est-ce qu'elle est véridique? Oui, les gens qui nous parlent ont un intérêt à nous parler. Oui, ils ont un agenda, mais c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est d'intérêt public. Et si on répond oui à ces deux questions-là, il faut la publier.
Voilà.
Voilà. On s'arrête. Au retour, la RIO, est-ce que vous pouvez recommencer à aimer le Stade olympique?
Drainville PM. La voix est libre.
Alors donc, Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, a déposé un projet de loi, Luc, qui va essentiellement remplacer la RIO, la Régie des installations olympiques, qui a été créée en 1975 quand on était sur le bord de perdre les Jeux olympiques tellement les travaux de construction allaient tout croche. Et bref, on a sauvé les Jeux, la RIO est restée. Et là,
opère toujours selon une loi vieille de 44 ans.
Et voilà, et là, ils vont la remplacer par une nouvelle société qui doit mettre en valeur le parc olympique. Je vous épargne le nom technique. Là. Mais bref, la question dont je voulais discuter avec toi, puis avec laquelle j'aimerais lancer la discussion avec les auditeurs. Là, le stade, là, ça a été compliqué. Il nous a coûté 10 fois plus cher que prévu. Mais c'est devenu le symbole de Montréal, la signature internationale de Montréal. Et là, dans les prochaines
années... Sauf pour les Montréalais. C'est ça que je trouve le plus incroyable.
Sauf pour les Québécois.
Oui, pour les Québécois aussi.
Ça reste un échec aux yeux de plusieurs Québécois.
Il faut passer par-dessus parce que je vais te dire... Montréal n'est pas une ville, moi j'aime beaucoup l'architecture, n'est pas une ville qui regorge de beaucoup de grandes architectures. Il y en a, là, mais pas beaucoup. Et parmi ça, tu as le stade de Taillibert. il nous a donné du trouble, il nous a coûté trop cher, il a dit mais la vérité, c'est que c'est une œuvre assez magistrale.
Moi, je le trouve magnifique, le stade.
L'intérieur est peut-être mal conçu, mais je veux dire, c'est une belle œuvre. Tu sais, à Montréal, t'as quoi? T'as IMP, là, celui qui est décédé la semaine dernière, l'architecte de la pyramide du Louvre, il a construit la place Ville-Marie.
Exact.
T'as Maes van der Rohe qui a construit la tour de la CIBC puis Westmount Square. Tu sais, t'as des œuvres comme ça à Montréal, ou le nouveau siège de la Caisse de dépôt, que je trouve magnifique aussi, surtout à l'intérieur. Alors, quand on a un actif comme le stade, en termes de tourisme, à tout le moins, faut l'utiliser.
Alors, 790-9850, est-ce que le stade, vous êtes prêt à investir? Parce que c'est ça qui va arriver, là. La nouvelle société, là, elle va investir au cours des prochaines années jusqu'à 750 millions, notamment pour remplacer le toit du stade. Mais on a décidé comme société, dans les faits, Luc, de le garder, de l'entretenir, parce qu'il y a des touristes qui viennent chez nous pour le voir. Le touriste japonais qui débarque puis qui veut se prendre en photo devant le stade, il ne sait pas que ça a coûté 10 fois le prix, puis il se rappelle pas que ça a été le bordel construire ça.
Puis il s'en fout complètement. Mais par ailleurs, je ne sais pas si tu as été à un événement dans le stade dans les deux ou trois dernières années.
Non.
L'intérieur, là, tu as vraiment l'impression de rentrer dans une affaire qui n'a pas été rafraîchie depuis 44 ans.
Les 750 millions doivent notamment servir à ça.
Je comprends ça, c'est urgent. Là. On ne peut pas laisser ça. Il y a même, et tu t'en souviens qu'à un moment donné, il a été question de le dynamiter. Une idée comme celle-là qui avait été mise de l'avant. Et pendant ce temps-là, tu as toujours quelqu'un qui trouve que le stade n'est pas adéquat aussi, puis il n'est pas pour ça, puis patati.
On a changé d'idée quand on a compris que ça allait coûter plus cher le dynamiter que de le retaper. Alors, on a quelques minutes pour prendre quelques appels. François, 790-9850, on vous écoute.
Oui, il faut investir dans le stade. On n'a pas d'autre choix. C'est un joyau de Montréal, c'est un joyau architectural. C'est la seule bâtisse sur notre planète qui est bâti comme ça. C'est des porte-à-faux, c'est la tour inclinée, c'est une ingénierie, c'est une architecture qui est unique. Moi, en fait, le seul souhait que j'espère pour le stade, c'est qu'un jour, les Montréalais et les Québécois puissent l'aimer autant que les Australiens aiment leur opéra.
C'est intéressant, ça, vous avez tellement raison.
Très bon point, François, merci. On s'en va rejoindre... il vient de quitter. Alors, j'ai quelques textos. Je travaille au stade. Les boss sont des cabochons. Le toit est imbibé d'eau avec plein de patchs. Ben oui, on le sait, ça, c'est pour ça qu'il faut le remplacer. On a l'appel, c'est Michel, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je pense qu'il faut démolir ce stade-là. Il est en fin de vie. Partout dans le monde, des vieux stades comme ça, c'est démoli pour des choses modernes. Investir 750 millions là-dedans, c'est de la folie pure. Ce stade-là a été correct, mais là, c'est terminé. Il faut passer à autre chose, à quelque chose de moderne pour plusieurs activités, des événements. Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas comme société de remettre 750 millions là-dedans. Il n'y a personne au monde qui fait ça.
Là-dessus, je voudrais quand même regarder là où parmi les Olympiques les plus réussis de l'histoire, on cite ceux de Barcelone en 1992. Le stade olympique de Barcelone, c'était le stade Montjuïc qui a été construit dans les années 30. À Berlin, quand ils ont reçu récemment des matchs de la Coupe du monde de soccer, le stade de Berlin y a été construit en 1932. Alors que, tiens, c'est pas vrai, là. Je comprends là, votre point de vue, mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on peut sacrer tout à terre puis reprendre, mais je trouve qu'on en sacre pas mal d'affaires à terre au Québec pour pas grand-chose.
Tu vois, j'ai quelqu'un qui m'écrit, dit Michel, merci pour l'appel, parce qu'on veut aller à Nicolas, mais j'allais dire, quelqu'un m'écrit pour dire oui, je suis d'accord pour qu'on mette de l'argent, mais ça va prendre une surveillance très serrée des coûts. On s'entend là-dessus. Quelqu'un d'autre dit « On l'a, il est là, il faut le remettre à jour et après, on le rentabilise avec le tourisme, notamment. » Ça, c'est vrai. Quelqu'un d'autre me dit, par contre, il n'y a rien à faire autour du stade.
C'est de moins en moins vrai. Tu as l'insectarium, tu as le jardin botanique,
tu as
le stade de Saputo, tu as le biodôme, enfin, tu as tout ça. Il y a beaucoup d'affaires autour. Ce qui est malheureux, c'est que malgré ça, ça ne se dynamise pas. C'est ça l'affaire.
Alors, ça va être le mandat, justement, de cette nouvelle société de le dynamiser, de le rentabiliser davantage.
Une belle concentration d'attrait, là.
Tout à fait.
Qui est toute là.
Merci, Luc.
Salut.
On s'arrête au retour. On parle des Bruins de Boston. Ils ont gagné la première hier. Hein, quoi?
Yark, je les aime pas.
Ben oui, je les aime pas moi non plus, mais qu'est-ce que tu veux? C'est les autres qui sont en finale.